Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Nous sommes en 2013. A priori, l'histoire n'était pas bien partie. Un Israélien qui déclare sa flamme à un Iranien, alors même qu'Ahmadinejad, le président ultra-conservateur d'Iran, décrit Israël comme une tumeur cancéreuse et annonce qu'il veut rayer ce pays de la carte, on se doute que ça ne va pas être simple. Et quand Benjamin Netanyahu réplique en accusant l'Iran de massacre de milliers d'innocents en Syrie, on se dit que c'est perdu d'avance. Comment un Israélien et un Iranien lambda pourraient-ils se parler, rester dans la même pièce ou même s'aimer ? Roni Edri, professeur de graphisme à Tel Aviv, décide pourtant de relever le défi. Il fabrique une affiche où il pose avec sa petite fille, qui tient à la main, un drapeau israélien et ces mots destinés aux Iraniens « Nous ne bombarderons jamais votre pays, nous vous aimons ». L'image fait fureur, un site internet puis une page Facebook intitulée « Israël aime l'Iran » sont créés. Dans la foulée, un autre site web « Iran aime Israël » apparaît. Des familles se parlent, s'invitent par webcam interposée, les internautes échangent des images, des slogans, notamment « Not ready to die in your war ». Ils parlent de sport, de choses et d'autres. Au début, les Iraniens et les Iraniennes cachent leur visage pour ne pas être reconnus, puis ils se découvrent. Dans une autre campagne en ligne intitulée « Let's have coffee », on prend des cafés ensemble, de part et d'autre de la frontière, par Skype en split screen. Pour d'autres enfin, les rencontres et les échanges ne sont pas uniquement virtuels. La photo d'un couple qui s'embrasse devient virale. Chacun tient son passeport, elle iranien, lui israélien. La première fois que nous avions diffusé l'émission que vous allez entendre, c'était le 15 janvier 2015, juste après Charlie, après la tuerie de l'hypercacher, quand l'entente, là encore, semblait impossible. Pourtant, nous en avons trouvé des histoires de juifs et de musulmans qui s'aiment ou se sont aimés. Une émission en mode « Faites l'amour, pas la guerre » ou en tout cas « Essayez » par Ilana Navarro, rencontre possible et impossible jusqu'à 14h30 sur France Culture, les pieds sur terre, quartier d'été. C'est parti.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis née dans une famille juive, traditionnaliste, pas vraiment pratiquante. On vivait à Casablanca, on faisait Shabbat, on dînait chez mes grands-parents le vendredi soir, avec la prière du vendredi soir, mais ça s'arrêtait là, on n'était pas chômer Shabbat, c'est-à-dire qu'après le vendredi soir, on avait un week-end tout à fait normal, où on allait faire du sport, où on regardait la télé, enfin voilà. Et c'était plus pour être chez mes grands-parents qu'autre chose.
Je suis né à Casablanca, au Maroc, où j'y ai passé toute mon enfance jusqu'au bac. Mon père est marocain, musulman. Ma mère est d'origine franco-allemande. Elle est née au Maroc également. Donc elle a dû se convertir effectivement pour le mariage avec mon père.
Mes parents avaient des amis de tout horizon, ils avaient des amis musulmans, des amis chrétiens, il n'y avait pas chez nous de problème avec ça, quoi. On avait des amis de partout, aussi bien mes parents que moi-même d'ailleurs.
J'ai rencontré Joanne par hasard, chez un ami commun, j'étais vraiment jeune, mais ça a été furtif. Elle savait qui j'étais, je savais qui elle était. Et trois ans plus tard au lycée, par l'intermédiaire d'une copine en commun, elle nous a plus ou moins présentés et ça s'est fait petit à petit.
On est tombés amoureux comme n'importe quel adolescent de 15 ans. Pour nos amis, on est un couple assez bizarre parce que c'était rare à l'époque qu'on reste autant de temps en couple, fidèle, très amoureux. On nous appelait les sangsues. On était tout le temps collés. C'était une très jolie histoire, vraiment, on s'aimait, vraiment, c'était pur comme amour, c'était très chouette.
On s'est kiffé, comme disaient les jeunes, on s'est kiffé, comme on dit encore aujourd'hui, assez rapidement. Tout le monde autour de nous était au courant de notre histoire et peut-être même parfois nous jalouser un peu parce que c'était une histoire sérieuse par rapport aux petites histoires d'adolescents que les autres avaient, quoi.
Il est arrivé qu'on se fasse cracher dessus. On nous regardait de travers. On nous montrait du doigt, on nous crachait dessus dans la rue quand les gens savaient. Voilà, c'est notre couple qui dérangeait.
On voulait pas se cacher, on était fiers de nous. Parce que moi je l'aimais, elle m'aimait, voilà. On était fiers de notre couple. Parce qu'on était amoureux. Et j'avais aucune raison de me cacher à qui que ce soit. Après, oui, forcément, s'il y a des gens à qui ça plaît pas, ou qui peuvent manifester leur colère en crachant, ou en criant, ou en poussant, ben on se défend sur le moment, et puis ça passe rapidement. Je mets de l'importance sur des choses qui ont de l'importance pour moi. Le reste, je m'en fiche un peu, en fait.
Hachim venait à la maison assez ouvertement, librement, bien accueilli par mes parents, parce qu'on avait 15-16 ans, et que pour eux, ça irait pas très loin. Ma mère, à l'époque, divorçait de mon père. Et elle est partie vivre en France après son divorce. Et par choix, je suis restée vivre avec mon père. Par choix, parce que je voulais pas m'éloigner d'Hachim. Donc je voulais pas quitter le Maroc. Donc mon père a dû penser que je restais pour lui, mais en fait, non, je restais juste parce que j'avais mon amoureux et que je voulais pas le quitter. Je me rappelle, au bout d'un exactement un an après le début de notre relation avec Hachim, mon père m'a invité à déjeuner au restaurant en tête-à-tête. Et j'ai bien senti à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'allais rarement déjeuner en tête-à-tête avec mon père au restaurant. Et ce jour-là, il m'a dit, voilà, Joanne, il faut que je te dise, ta relation avec Hachim est en train de devenir sérieuse et c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est des choses qui ne se font pas. Je ne suis pas raciste, je n'ai aucun problème ni avec lui ni avec aucun musulman sur Terre, mais on ne se marie pas entre juifs et musulmans. Il n'y a pas de relation amoureuse entre juifs et musulmans, ça ne se fait pas, ça n'est pas possible, sans plus d'explication. Et moi, bien sûr, du haut de mes 16 ans, je n'ai pas compris. Je pouvais pas comprendre pourquoi ça se faisait pas tout d'un coup, pourquoi on avait le droit d'être amis et pas amoureux, j'arrivais pas bien à comprendre. Donc j'ai dit oui, j'ai dit ok papa, je vais faire ce que tu me demandes de faire, mais en sachant très bien au fond de moi-même que j'en ferais rien. Et je m'étais dit que on continuerait à vivre notre expérience et que ça passerait. Jamais j'aurais pensé que ça pourrait aller plus loin dans l'interdiction. Je pensais que c'était plus une mise en garde qu'une interdiction. Et au final, c'était une vraie interdiction. Au fil des mois, quand mon père a bien vu que Hachim et moi, on se fréquentait toujours, il a commencé à devenir plus virulent, à m'interdire de sortir, à m'interdire de le voir, à me faire suivre par des gens qui l'engageaient pour me suivre partout dans Casa, pour savoir où j'allais, à quel moment, avec qui j'étais. Et là a commencé une une période de stratagème incroyable pour ne pas se faire prendre. Je me faisais accompagner chez lui par une copine à moi et on a dû s'échanger de vêtements et de chapeaux et puis elle a pris ma place et voilà, et elle a fait croire toute la journée à celui qui me suivait que c'était moi dans la voiture et moi j'allais voir Hachim et je passais ma journée avec lui chez lui parce que alors de son côté à lui c'était moins grave, j'étais mieux acceptée.
Si mon père en revenant du travail, il me demande de l'accompagner à une balade sur le sable. Il commence à m'expliquer le pourquoi du comment, le quand dira-t-on, la famille avec des gens qui sont plus obtus que nous peut-être et qui voient les choses mal, si on veut. Le mariage qui pourrait être compromis ou la vie commune au Maroc entre une juive et un musulman. Mais lui, en lui-même, il n'avait pas trop de problèmes. Il avait peur de la société qui pourrait éventuellement nous juger. Et juger des enfants qu'on aurait mis au monde là-bas, sur place, à cette époque-là, et qui pourraient être mal vus et rejetés des deux communautés déjà, et peut-être harcelés, entre guillemets, à l'école.
Mon père, qui a toujours été mon ami, à partir du jour où il a compris que je ne l'écouterais pas et que j'irais au bout de mon truc, il a tout fait pour nous séparer, absolument tout. Ma fin d'année de première, il m'a annoncé que je partais vivre en France chez ma mère parce qu'il n'avait pas d'autre solution pour me séparer d'Hachim. Il avait bien compris que ça ne viendrait pas de moi. Et donc, très subitement, il m'a dit « Tu reprends pas la terminale à Casa, tu pars vivre à Nice avec ta mère et ta sœur. »
On trouvait ça hyper injuste pour deux jeunes ados qui s'aiment terriblement, qui ont créé leur monde autour de ça. Ouais, on a trouvé ça super injuste.
Quand Hachim a su que j'allais partir, il a demandé à ses parents de l'envoyer en internat en France. Donc, ils l'ont envoyé en internat à Annecy, enfin à côté d'Annecy, dans les montagnes de Haute-Savoie. C'était pas simple pour se voir, mais ça nous a quand même... on était moins séparés que si j'avais été en France et lui au Maroc. Donc, on se voyait en cachette. Je me sauvais tous les week-ends de la maison pour rejoindre Hachim. Je me sauvais, clairement. Voilà, je partais. Comme j'étais majeure, de toute façon, je n'avais pas de compte à rendre. Donc, je prenais le train, je faisais du stop, je faisais n'importe quoi, mais je le rejoignais et on passait le week-end ensemble et je revenais. À ce moment-là, il y a autre chose qui est venue se greffer à tout ça, c'est qu'on était séparés quand même la semaine, et même des fois le week-end, parce qu'on ne se retrouvait pas tous les week-ends. Et puis Hachim, il a commencé à moins m'aimer. Et puis voilà, hein, il s'est passé ce qui s'est passé. D'autres filles lui ont tourné la tête. Et puis on s'est séparés à ce moment-là. Parce que clairement, je pense qu'Hachim avait envie d'autre chose, avait envie de vivre autre chose. Et moi, j'en ai énormément souffert. J'ai vécu ça comme une trahison terrible. J'ai cru que j'allais en crever, que je m'en remettrais jamais. Et puis on était séparés depuis quelques mois, donc mes parents étaient très 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 contents. Et du coup, mon père a accepté que je m'installe à Paris pour faire mes études. Donc il a été super sympa, il m'a pris un studio en plein Paris, il m'a meublé... Il m'a offert l'école que je voulais faire à tout prix. Enfin bon, rien n'était assez beau pour moi maintenant que j'étais plus avec Hachim. Et puis, ça a été voilà, comme ça pendant un an. Un an où j'étais quand même encore très très amoureuse de lui. Et que donc, dès qu'il avait envie de me voir, j'étais disponible. C'était difficile, donc de temps en temps, il venait passer un week-end à Paris avec moi, et puis il repartait vers ses autres amours, et ça, ça a été pour moi une période terrible. Et donc là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je fasse une vraie coupure, et qu'il fallait que ça s'arrête. Et donc à ce moment-là, j'ai pris la grande décision de quitter la France et de partir faire mon aliyah en Israël.
France Culture, les pieds sur terre.
Puis elle est allée en Israël. Et là, je pouvais plus la suivre.
Moi, j'ai senti que j'avais envie de connaître ce pays. Alors, pas du tout d'un point de vue sioniste, ni d'un point de vue identitaire. Mais il y avait peu de chance pour que nos routes se croisent alors que j'étais en Israël. Et du coup, j'ai été habitée dans un kibboutz pendant quelques mois. Et j'ai découvert un pays que je ne connaissais pas, des cultures inconnues. Et ça m'a un petit peu réconciliée avec mon identité, parce que toute ma période où j'étais avec Hachim au Maroc, le fait qu'on me regarde de travers, le fait qu'on m'exclue de ma communauté, ça a fait monter en moi une certaine colère et une certaine révolte envers mon identité, ma religion. J'ai été choquée qu'on puisse réagir comme ça, j'ai été choquée j'avais l'impression d'être dans une secte, quoi, de gens qui étaient fermés sur eux-mêmes. Mais justement, tout le monde est juif en Israël, enfin, ou pratiquement. Donc finalement, Israël, ça m'a réconcilié avec ça, parce qu'il y avait plus ce problème de « je suis juif, t'es juif, t'es pas juif, tout le monde est juif », voilà. Alors finalement, la judaïté, elle vient en second plan. Et donc, du coup, ça m'a guéri. Enfin, voilà, j'ai plus rejeté ma judaïté comme j'avais pu le faire dans mon adolescence. J'avais fait un rejet un peu de tout, de mon identité. J'y suis restée 2 ans, presque. Et puis j'ai fini par revenir en France parce que je me suis rendu compte que je ne me voyais pas faire ma vie là-bas. Bon. Et puis on a repris contact à ce moment-là avec Hachim. Et puis à ce moment-là, à partir de là, ça s'est un peu instauré. C'est-à-dire que toutes les années qu'on suivit, on ne se disait plus qu'on allait se remettre ensemble parce que quelque part, on avait réussi à se séparer. Et on avait donc enterré l'âge de guerre avec nos parents. Et qu'on n'était pas prêt à la déterrer. Mais on s'accordait des moments à nous. Très intenses, très forts. Et puis chacun rentrait chez soi. Et au moins, on avait l'impression de se faire du bien sans faire du mal aux autres. Sans faire du mal à nos parents. Ça a duré quelques années. Et puis je suis partie vivre à Toulouse par un concours de circonstances. Et Hachim venait me voir à Toulouse de temps en temps, un week-end par-ci, un week-end par-là. Moi, j'allais le voir aussi, il habitait Lyon à l'époque.
Je crois que la dernière fois qu'on s'est vus, c'était... Elle venait de rencontrer le papa de Anna, sa fille. Et on s'était vus un dernier week-end à Paris, puis après, plus de nouvelles.
Julien n'était pas juif, je pense que c'était écrit que, que je n'épouserais pas un juif.
Mais ça ne posait pas de problème à tes parents?
Non, bizarrement. J'aurais préféré que ça pose un problème. Alors, mes parents, ils vont te dire que les catholiques sont moins pratiquants que les musulmans, qu'ils vont pas m'imposer une religion, qu'ils sont plus tolérants, plus ouverts. Et c'est pas vrai. Je pense qu'il n'y a pas de généralité à faire sur personne. Quand j'ai accouché de Anna, j'ai appelé Hachim pour lui dire que j'avais eu une petite fille et qu'à partir de là, notre relation, elle était définitivement terminée et qu'il ne fallait surtout pas qu'on se voie, ni qu'on se rencontre, ni qu'on s'écrive, ni qu'on se parle. Que voilà, c'était la seule solution pour moi. Et voilà. Et j'ai fait donc ma vie avec Julien et Anna. Au bout de quelques années de vie commune, je me suis rendu compte que c'était pas ça, quoi. On s'est rendu compte, d'ailleurs, c'est pas moi, parce que on s'est vraiment séparés d'un commun accord avec Julien. Il n'y a pas eu de trahison, il n'y a pas eu de méchanceté. Bon, il y avait quand même un enfant au milieu, donc je peux pas dire que c'était pas gay. C'était difficile de les séparer, les week-ends, les avions tout seuls. C'était déchirant de les voir se séparer. D'autant plus qu'on s'est toujours très bien entendu et qu'il n'y avait pas d'animosité entre lui et moi. Et c'était difficile, voilà. C'était une époque que je n'aimerais pas revivre. qui était dure pour la petite, pour son papa, pour moi, enfin bon, voilà. J'étais donc célibataire, je vivais avec ma fille à Nice. Et j'étais un peu seule, je me sentais seule. Et tout le monde s'inscrivait sur Facebook à l'époque, c'était le truc à la mode. Et moi, je me sentais pas tellement concernée. Mais mes cousines me disaient, mais quand même, va sur Facebook, tu vas voir, tu vas retrouver des amis à toi. Puis tu vas peut-être rencontrer quelqu'un. Puis ça a pas loupé, j'ai retrouvé mes amis, mais pas ceux qu'ils espéraient que je retrouve. Voilà. Donc j'étais inscrite sur Facebook depuis 5 minutes et déjà, Hachim m'avait envoyé un message. Hachim, lui, était marié. En instance de divorce, quand on s'est reparlé. Et puis j'ai été au Maroc en vacances. Il habitait Casa à l'époque. J'ai été au Maroc en vacances voir mes copines avec ma fille. Et bien sûr, je l'ai appelé pour qu'on prenne un café ensemble. Voilà. Et puis, comme d'habitude, on n'a pas résisté très longtemps. Voilà, on s'est retrouvés comme si on s'était jamais quittés.
Moi, entre-temps, je m'étais marié et à cette époque-là où on s'est revus, c'était la fin de mon mariage qui s'était très mal terminé d'ailleurs. Donc elle m'a beaucoup aidé là-dessus, à me sortir un peu du trou, de ce gouffre dans lequel je me suis mis. Je me suis accroché à elle. Et en fait, ouais, c'est elle qui m'a aidé à me sortir de cette histoire qui était dure pour moi un peu.
Il a fallu que le divorce soit vraiment prononcé pour qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis je suis partie vivre à Toulouse parce que le père de ma fille y habite. Et puis pour Hachim et moi, c'était une ville neutre. Voilà. Il n'y avait pas nos familles, il n'y avait personne. On commençait une vie ailleurs. Voilà. Et là, il a fallu que j'appelle mon père pour lui annoncer la nouvelle. Et il m'a fallu plusieurs mois pour prendre le téléphone et dire à mon père, écoute, j'ai quelque chose à te dire, j'ai retrouvé Hachim. Et là, il y a eu une minute de silence. J'ai cru qu'il avait fait une crise cardiaque au téléphone. Donc ça faisait plus de 10 ans pour eux qu'Hachim ne faisait partie que de mon passé. Donc mon père a été, je crois, très choqué. Et en même temps, la première réaction qu'il a eue, c'est de me dire, écoute, Joanne, tu as 32 ans, qu'est-ce que tu attends de moi ? Que j'approuve, je ne peux pas approuver. Que je t'interdise, je ne peux pas t'interdire. Aujourd'hui, tu as une fille, t'es maman. Donc je vais te laisser vivre ta vie comme tu l'entends. Mais tu ne peux pas m'imposer à moi de recevoir Hachim, de le rencontrer, de venir chez vous. Voilà. Et toi, tu viendras chez moi, mais que sans lui. Et ma mère, pareil. Même discours. Tu fais ta vie, mais tu ne nous l'imposes pas. Et moi, sur le coup, j'ai dit, ben, pas de problème. Aucun souci. Je vis ma vie et je ne vous l'impose pas. Donc voilà, j'ai tenu tête. J'ai dit, ok, là ce coup-ci, je vais pas vous dire que je vais le quitter parce que c'est peut-être l'histoire de ma vie et je ne veux pas passer une deuxième fois à côté. Peut-être qu'on ne va pas rester ensemble, j'en sais rien, mais je ne veux pas qu'on soit séparés pour le coup à cause de vous. Si on se sépare une autre fois, je veux que ce soit juste parce qu'on ne s'aime pas ou qu'on ne s'aime plus ou qu'on ne s'entend pas ou des choses qui arrivent à tous les gens. Mais pas parce que vous m'avez interdit. Et au bout de quelques mois, j'ai senti que c'était pas ça. Que c'était pas ce que j'attendais. Que finalement, que j'avais certainement subliminé cette histoire, que j'avais vu quelque chose d'extraordinaire, alors qu'au quotidien, on était un couple lambda. Et ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que justement, on avait toujours été protégés de ça par l'extraordinaire de notre relation. Et tout d'un coup, ben, il n'y avait plus rien d'extraordinaire. On était monsieur et madame tout le monde, dans une ville où personne nous connaissait, où personne ne nous jugeait. Et tout d'un coup, on avait les problèmes de monsieur et madame tout le monde. Donc à ce moment-là, on s'est requittés. Et au bout d'un an, il me manquait. Il me manquait terriblement. Et puis, on s'est rappelé et j'ai compris que lui n'était pas non plus spécialement heureux d'être séparé de moi. Et il était seul. Et donc, il a refait son sac et il a débarqué à Toulouse en train de nuit, sur un coup de tête un peu. Et à ce moment-là, donc il a fallu réannoncer à mes parents que Hachim et moi, on s'était remis ensemble. c'était vraiment voilà. Donc mes parents toujours campés sur leur position, pas de problème, mais nous on veut pas le voir.
Là c'était un peu plus difficile pour moi parce que de mon côté ça s'est bien passé finalement. Mes parents sont super ouverts par rapport à ça. Mais ses parents sont un peu plus, surtout son père un peu plus pratiquant. Il ne voulait pas avoir un gendre musulman, peut-être. Je remets tout ça sur le dos du conflit, encore une fois. Mais moi, déjà très jeune, j'avais beaucoup de recul par rapport à ça. Déjà, je ne croyais pas en Dieu, j'avais pas de problème de religion, d'identité, m'identifier par rapport à telle ou telle religion. Et puis, une deuxième chose, je n'ai jamais été israélien. Je n'ai jamais été palestinien. C'est un conflit qui ne me regarde absolument pas. Il ne voulait pas me voir. Il ne voulait pas entendre la relation. Il ne voulait pas entendre parler de cette relation. Comme si elle n'existait pas. Donc voilà, il n'y avait pas de Hachim dans l'histoire. À part que moi, je vivais aussi. Je vivais quand même avec Johan et avec Anna. Donc, je ne le voyais pas. Elle allait le voir en vacances. Moi, j'allais voir mes parents de mon côté.
Et au bout de quelques mois, je devais aller en vacances voir mon papa avec ma fille. Et sans Hachim, bien sûr, qui devait rester à nous attendre à la maison. Et là, une semaine avant notre départ, mon père m'a appelé en me disant « Je voudrais parler à Hachim, est-ce que tu peux me le passer, s'il te plaît ?» Donc je lui ai passé à Hachim, ils se sont isolés, ils ont parlé longuement, tous les deux. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit ce jour-là, je ne veux pas le savoir.
Il m'a pris au téléphone, il m'a dit « Bonjour Hachim, c'est Robert, tu te souviens de moi ?» Effectivement, je me souviens de vous. Très bien. Comment vas-tu? Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Mais on s'est rien dit de particulier. Rien concernant notre relation et pourquoi il n'était pas d'accord au début et pourquoi maintenant il serait éventuellement d'accord, etc. Je ne sais pas pourquoi ça a changé.
Et Hachim est sorti de la pièce en me disant « Je pars avec toi en Espagne. » Voilà. Et au final, Hachim est rentré dans la famille. Ça a commencé par mon père, puis par ma mère, puis par mes tantes, puis par mes oncles, puis mes cousins et mes cousines. Et puis aujourd'hui, c'est comme si jamais rien de tout ça n'avait existé. On ne parle plus jamais du passé. Hachim est totalement intégré. Tout le monde l'adore. Tout le monde trouve que c'est un garçon rare et exceptionnel, bien élevé, amoureux, bon papa, enfin voilà, tout ce que moi je savais déjà, tout ce que moi j'ai toujours su. Qui c'est ça?
Hélène.
Qui c'est celle-là sur la photo?
Anna.
Non, c'est pas Anna, c'est Tati Karine.
C'est Tati et qui?
Je peux pas comprendre. Ça, c'est Tati quand elle était petite.
Dying to meet you. Everybody says I'm wrong.
Aujourd'hui encore, c'était les pieds sur terre, rencontre possible et impossible entre des juifs et des musulmans. Un reportage d'Ilana Navarro réalisé par Thomas Jost avec un coup de main de Cécile Lafont. Merci à Johan Elgrichi, à Hachim Djerari, à Karil Elgrichi et à Sandrine Chaperon qui est l'attachée de production des pieds sur terre et à Céline Autain, notre stagiaire.